Pour ouvrir cette édition, arrêtons-nous sur la récente rencontre à Kinshasa entre le ministre congolais de la Justice et l'ambassadrice américaine. Quels en sont les enjeux concrets pour la RDC, notamment dans la lutte contre la corruption ?
Cette coopération bilatérale va bien au-delà du symbolique. Washington apporte un soutien financier et technique considérable avec des programmes de formation destinés à moderniser le système judiciaire congolais. De plus, l'accent est mis sur la transparence et la sécurisation des procédures, ce qui pourrait transformer la perception de la justice par les citoyens et les investisseurs.
Certains observateurs voient dans cet accord un levier pour la stabilité institutionnelle. Pensez-vous que cela puisse réellement restaurer la confiance dans le système judiciaire ?
Les ONG locales saluent cette initiative comme une opportunité de briser le cercle vicieux de l'impunité. L'expérience d'autres pays montre que des réformes judiciaires appuyées par l'expertise internationale peuvent réduire la corruption de près de 30%, à condition qu'elles s'accompagnent d'une volonté politique nationale claire.
La coopération s'étend-elle à d'autres secteurs du développement ?
Au-delà de la justice, l'accord prévoit des collaborations dans la gouvernance, la protection des droits humains et l'amélioration du climat des affaires. Cela crée un effet domino bénéfique pour l'ensemble du tissu socio-économique congolais.
Poursuivons avec la nomination contestée du consul général kényan à Goma. Pourquoi cette décision a-t-elle généré des tensions entre Nairobi et Kinshasa ?
L'absence de consultation préalable a été perçue comme un manque de respect des usages diplomatiques par Kinshasa. Nairobi se défend en expliquant qu'il s'agit d'une procédure constitutionnelle inachevée, nécessitant l'aval du Parlement kényan et l'agrément congolais, ce qui tend à apaiser les inquiétudes.
Au-delà de la procédure, peut-on y voir un enjeu de leadership régional dans la gestion des crises dans les Grands Lacs ?
Le Kenya cherche à s'affirmer comme médiateur clé dans la région, notamment face à l'instabilité persistante à l'est de la RDC. Cette rivalité diplomatique s'inscrit dans une compétition d'influence où chaque geste protocolaire prend une dimension stratégique.
D'autres États africains ont-ils déjà connu des cas similaires et avec quelles conséquences ?
On se rappelle des tensions entre l'Éthiopie et l'Égypte sur les nominations consulaires en lien avec le Nil. Cela avait retardé des processus de médiation, montrant que ces détails administratifs peuvent impacter la stabilité régionale s'ils ne sont pas rapidement clarifiés.
Restons dans le nord-est de la RDC, où le projet d'accord de paix de Doha ne convainc pas Kinshasa. Les points de blocage majeurs portent sur plusieurs aspects.
D'abord, l'absence de garanties fermes concernant le retrait effectif des forces du M23 des zones qu'elles occupent. Ensuite, le partage du contrôle sécuritaire dans les territoires libérés que le gouvernement refuse de négocier. Enfin, le manque de mécanismes clairs pour assurer la protection des populations civiles et garantir une application stricte du cessez-le-feu. Kinshasa estime également que le texte ne répond pas à ses exigences en matière de responsabilité des États soutenant les groupes armés, notamment le Rwanda, ce qui complique davantage le consensus autour de l'accord.
Les opérations menées ce matin à Goma témoignent-elles d'un risque d'escalade ?
Les arrestations massives à Keshero illustrent la fragilité du cessez-le-feu. La multiplication de ces incidents rend la médiation régionale, portée par la SADC, l'EAC et l'Union africaine, encore plus urgente mais aussi plus complexe à coordonner.
Peut-on imaginer une solution durable sans une implication accrue des partenaires internationaux ?
C'est difficile. L'expérience du Burundi en 2015 montre que seule une coordination internationale serrée, avec des observateurs neutres et des financements transparents, peut créer les conditions d'une paix durable.
Dirigeons-nous vers le Sénégal, où la découverte d'une dette publique cachée bouleverse l'économie nationale, provoquant l'arrêt de nombreux chantiers, plongeant des milliers de travailleurs dans l'incertitude et entraînant un plan d'austérité qui affecte directement le quotidien des ménages.
Dirigeons-nous vers le Sénégal, où la découverte d'une dette publique cachée bouleverse l'économie nationale et met le pays sous haute pression financière. L'impact est considérable. L'arrêt brutal de nombreux chantiers a mis en péril l'emploi de milliers de travailleurs, en particulier dans le secteur du BTP, déjà fragilisé par la baisse des investissements. Avec un taux d'endettement atteignant 119% du produit intérieur brut, le Sénégal figure désormais parmi les pays africains les plus exposés au risque de défaut de paiement, selon la Banque mondiale.
Face à cette crise, le gouvernement lance un plan d'austérité inédit. Quelles mesures sont prioritaires ?
Le gouvernement de Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko ont lancé un plan d'austérité ambitieux combinant hausse des impôts, vente de terrains publics et digitalisation des finances. En attendant une éventuelle reprise de l'appui du FMI, la population sénégalaise subit déjà de plein fouet les effets de cette crise entre ralentissement économique, incertitude professionnelle et pouvoir d'achat en berne.
Peut-on espérer une stabilisation rapide avec ce type de stratégie ?
Le succès dépendra de la capacité du gouvernement à restaurer la confiance des investisseurs, notamment en misant sur les ressources énergétiques et agricoles. À long terme, la digitalisation des recettes fiscales pourrait augmenter les revenus de l'État de 20% selon les estimations du FMI.
En Bolivie, la fin de l'ère MAS ouvre la voie à une présidentielle sous haute tension. opposant la vision d'un capitalisme inclusif prônée par Rodrigo Paz à celle d'une austérité stricte et d'un alignement avec les institutions internationales défendues par Jorge Tuto Quiroga.
Rodrigo Paz défend un capitalisme inclusif axé sur la décentralisation et la digitalisation, tandis que Jorge Quiroga prône l'austérité et une intégration plus forte avec les institutions financières internationales. Cette polarisation se reflète dans la réaction positive des marchés, mais aussi dans l'inquiétude d'une partie de la population.
Comment le contexte des incendies récents pèse-t-il sur le débat électoral ?
Les feux de 2024 ayant ravagé 12 millions d'hectares ont exacerbé les inégalités et soulevé la question de la résilience climatique. Les candidats sont donc contraints d'intégrer des solutions environnementales sous peine de perdre la confiance des zones rurales les plus touchées.
Peut-on imaginer un compromis entre croissance économique et justice sociale dans ce contexte ?
Le modèle du capitalisme inclusif proposé par Paz s'inspire de l'expérience chilienne où la digitalisation et la décentralisation ont permis de réduire la pauvreté de 15% en 10 ans, tout en maintenant une croissance soutenue.
Intéressons-nous à Taïwan, où le lancement du premier Circular Economy Hotspot d'Asie-Pacifique fait sensation, une initiative visant à accélérer la transition écologique, réduire les déchets et stimuler l'innovation durable dans la région.
Le but est de transformer les modèles de production et de consommation pour limiter le gaspillage et optimiser l'usage des ressources. Par exemple, certains industriels taïwanais réutilisent déjà 80% des déchets plastiques dans la fabrication de biens électroniques, illustrant le potentiel de l'économie circulaire.
Comment Taïwan compte-t-il devenir un modèle régional dans ce domaine ?
Taïwan mise sur l'innovation technologique et les partenariats transfrontaliers, attirant investisseurs et chercheurs pour accélérer la transition écologique. Des plateformes de collaboration, inspirées du modèle nordique, permettent de mutualiser les brevets et de multiplier les synergies régionales.
Existe-t-il des obstacles majeurs à la généralisation de ce modèle en Asie ?
La disparité des réglementations et le manque d'incitations financières freinent l'adoption à grande échelle. Toutefois, des études montrent qu'une économie circulaire pourrait augmenter le PIB régional de 4% d'ici 2030, tout en créant plusieurs millions d'emplois verts.
Regardons à présent les tensions géopolitiques mondiales. Alors que Kim Jong-un multiplie les menaces nucléaires et que la Russie intensifie ses attaques en Ukraine, les risques pour la stabilité internationale se font de plus en plus pressants.
Le risque principal est celui d'une escalade incontrôlée. En Corée du Nord, l'expansion de l'arsenal nucléaire vise à dissuader toute intervention, mais accroît la méfiance régionale. En Ukraine, l'attaque coordonnée de 270 drones et 10 missiles marque un tournant dans la stratégie russe, cherchant à épuiser les défenses ukrainiennes.
Les efforts diplomatiques, notamment à Washington, peuvent-ils encore inverser la tendance ?
C'est complexe. Les rencontres entre Zelensky et Trump et les Européens montrent la volonté de relancer des négociations, mais tant que les actes militaires s'intensifient, l'espace pour la diplomatie reste étroit. L'histoire récente, en Syrie par exemple, prouve que des cycles de violence prolongés rendent tout compromis beaucoup plus difficile.
Peut-on tirer des leçons de situations similaires pour éviter l'escalade ?
La crise des missiles de Cuba en 1962 a démontré que seule une communication directe et continue permet d'éviter le pire. Les plateformes multilatérales comme l'ONU restent donc essentielles pour désamorcer les crises actuelles.
À Tokyo, le 9e sommet TICAD, Tokyo International Conference on African Development, se poursuit réunissant chefs d'État africains, investisseurs et organisations internationales. L'objectif est clair, repenser les stratégies de développement durable sur le continent. Les discussions portent sur le renforcement des infrastructures, l'industrialisation verte, la modernisation des systèmes éducatifs et sanitaires, ainsi que le soutien à l'innovation technologique. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa y plaide pour des partenariats équitables et des financements mieux adaptés aux besoins des pays africains. Dans un contexte de compétition accrue entre la Chine et les États-Unis pour l'influence économique sur le continent, le TICAD 9 devient une plateforme stratégique pour diversifier les alliances et affirmer la souveraineté africaine.
L'exposition New African Masquerades, présentée au New Orleans Museum of Art, explore les pratiques contemporaines du masque en Afrique de l'Ouest. Costumes, vidéos et performances d'artistes venus du Cameroun, du Nigeria, de Sierra Leone et du Burkina Faso sont mis en lumière dans un dialogue entre tradition et innovation. Cette exposition itinérante rejoindra bientôt plusieurs villes africaines, offrant une vitrine mondiale à la créativité contemporaine du continent, tout en valorisant son patrimoine culturel ancestral.
Le quatuor arbitral pour le match de qualification RDC, Sénégal a été officiellement désigné. Les Léopards pourraient bénéficier prochainement d'un renfort majeur pour ce rendez-vous décisif. Par ailleurs, le club israélien Maccabi Tel Aviv s'intéresse de près au milieu offensif congolais William Balikwisha, confirmant l'attractivité croissante des talents africains sur la scène internationale.
Aujourd'hui, nos loupes étaient sur des développements majeurs qui façonnent la scène politique, économique, culturelle et sportive de la RDC à la Bolivie, en passant par le Sénégal, Taïwan, Tokyo et Washington.
C'était votre édition spéciale de l'actualité mondiale et africaine. Merci de votre fidélité et de votre attention.
Restez connectés car l'information continue de façonner notre monde. Rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon complet.